Autant la jalousie est mortifère, elle nous entraîne dans toutes sortes de choses, autant l'envie de partager, d'avoir ce bonheur. Jésus donne envie. Et c'est presque la seule chose que l'on peut faire, c'est de donner envie avec simplicité. Voilà donc comment aborder un passé de ce sentiment de jalousie, du lien avec la comparaison. Mais en tout cas, il est toujours là comme signe il est révélateur en tout cas ce sentiment d'une soif de vie en plénitude. Et là, il faut bien le prendre et à ce moment-là, aller vers où on peut recevoir en plénitude, qui est vers cet unique nécessaire. Et donc, je vous ai parlé dans ce travail vers l'unique nécessaire. Eh bien, on a mis en place dans Vacances et Évangiles, il y a un premier laboratoire qui est celui d'un lieu où la parole est annoncée. C'est un lieu de prédication. Donc, l'Évangile est annoncé. Et puis, on a parlé d'un laboratoire qui était les petits groupes de partage, où là, on va faire des aventures d'existence en parlant. Il va falloir ouvrir la bouche à nos frères et de reconnaître les médiations, parce que c'est un lieu où l'Esprit Saint va se révéler. Et ce qui n'a pas été dit encore, où moi je fais ce que je peux, eh bien là, il va avoir dans chaque groupe au moins une dizaine de personnes pour continuer à nous parler les uns par les autres. Donc c'est à la fois un lieu où chacun va commencer à s'expérimenter à l'existence, aller essayer d'exprimer de l'essentiel de lui, quoi. C'est pas facile, c'est pas facile. Quand on voit ces petits bouts de choux qui apprennent à marcher, c'est pas facile, Et là, c'est un peu pareil. Et donc, on apprend cela. Et puis, on apprend à écouter aussi. Écouter, à recevoir cette femme syrophénicienne, elle était capable d'aller chercher les miettes qui sont sous la table. Voilà, les grâces nous sont données, livrées par les uns et les autres. Et puis alors, on a ouvert aussi, on a décidé d'ouvrir un autre atelier, non pas de poterie, mais c'est un peu de ça, qui est la ramasse. Là aussi, c'est qu'est-ce que c'est que ce lieu-là, d'un seul coup, alors on l'a signifié qu'il y a quelque chose, une lumière qui rassemble par ces quelques petites bougies qui sont là. Et là, là aussi, dans la simplicité, est-ce que l'on va entrer en relation avec ce quelqu'un que nous cherchons et qui peut seul nous donner de la vie. Et voilà, et là, avec, dans cette aventure de cet unique nécessaire que Marie a su prendre là, pour sa part, ça nous est à nous aussi livré. Et Paul est ferme, très ferme sur cette affaire-là, et il dit que il y a un moment donné, il faut prononcer le nom de Jésus. Confesser le nom de Jésus avec... Et c'est l'occasion de pouvoir dire merci Seigneur, merci Jésus, merci tout simplement pour aujourd'hui, merci pour... D'entrer en relation personnelle avec ce Dieu que nous cherchons, que nous pouvons éventuellement intellectualiser, d'entrer dans une relation personnelle, également affective, rationnelle, avec la source de notre vie, très simplement. Donc c'est aussi un petit laboratoire, on est entre amis, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, on est là, Et puis aussi, on entre, comme ces semeurs-moissonneurs, c'est qu'aussi Dieu est au milieu de nous, alors on lui parle et l'on se parle simplement. Et puis on apporte des choses. Hein, c'est cette capacité à reconnaître l'essentiel. Hein, est-ce que on a pu voir de l'essentiel de toute notre journée, de ces essentiels dans le repas, dans etc. Et c'est tellement beau aussi dans ces moments-là, les merci qui vont fuser hein, aux médiations et qui vont aussi s'adresser à celui qui nous aime. Et moi, j'ai toujours cette parole-là. Pourquoi ne m'aimez-vous pas? Et puis, je n'aime pas lui dire que je t'aime. Parce que quoi? Mais parce que parfois, ce mot de dire je t'aime a été tellement blessé aussi, qu'on n'y a pas cru. On nous a dit des je t'aime avec des baffes parfois. Et c'est pour ton bien, là hein? Ben, quand on va nous redire je t'aime, méfions-nous, hein? Si même comme on m'a aimé. Donc c'est un lieu là aussi hein, qui est pour ça, tout simplement. Je vous invite hein, à faire ces exercices personnels, de vous adresser à Dieu, parce que vous le faites exister. Dans votre intimité, dans votre secret de votre cœur, mais aussi dans votre communauté hein, de frères. Hein, la Bertonnière nous l'a dit, hein, on n'est pas fils parce qu'il y a la naissance. On est fils quand on accepte d'être fils. Et donc on va dire « mon père hein. ». Alors j'ai tellement aimé ces beaux moments là aussi où ensemble nous tenons la main. Eh bien, on dit « Père, ensemble, avec tous ces, hier soir, avec tous ces petits bouts de choux qui étaient là, hein, tous les enfants qui étaient là, ensemble, tous des enfants, hein, tous des enfants, hein, là je trouve que pour eux ça doit être un moment important ça, que ceux qui sont ces monuments devant eux là, sont petits et disent « Père ». Redevenir de petits enfants, et puis ben voilà, parler, hein, entrer dans la parole. Je ne crois pas à une foi qui ne s'exprime pas par des paroles. À un moment donné, on n'a pas besoin d'avoir, mais une foi s'exprime, elle se dit, et vraiment, comme il y a hein, des gens qui sont les qui aident à pouvoir débloquer des paroles. Hein. La psychologie nous aide et il y a un accompagnement pour aider. Nous sommes là aussi ensemble pour nous aider à débloquer des paroles aussi qui n'arrivent pas à se dire. Hein. Souvenez-vous de ces multiples démons muets que Jésus chasse. N'arrive pas à t'adresser aux hommes ou à Dieu, hein, d'apprendre à débloquer notre source, voilà, à parler. Ça. Alors, dans cette affaire de cette petite parabole de Marthe et de Marie, là, récit, on est devant un récit, on n'est pas devant une parabole. Et je vous disais que on a là aussi une grande problématique sur ce qu'on pourrait appeler le discernement et la problématique de la gestion du temps. Hein, cette grande affaire extrêmement importante pour les hommes occupés hein, et pour les hommes d'affaires, hein, donc la gestion du temps. La grande affaire, c'est que le temps n'est pas un problème,
Le temps est un don. C'est le don de notre vie. Notre vie est incarnée et donc elle est dans le temps. Marthe n'a jamais assez de temps. Parce qu'elle a tant de choses, hein, il y a multiples de choses, elle n'a jamais assez de temps. Et la grande affaire hein, de Jésus, lui, alors vous savez, il devait en avoir des choses à faire. Hein. Il devait en avoir un sacré paquet de choses à faire. Et il parle de l'unique nécessaire. S'il parle d'un unique nécessaire, c'est qu'il sait de quoi il parle. Et l'évangile n'est pas du tout caché sur ce sujet-là. Jésus va et prend les moyens de la relation à son Père. Et il parle à son Père. Et il parle, et pour nous montrer comment il fait, c'est qu'il parle devant ses disciples. Et il leur dit, il se passe quelque chose et il dit, Père, je te rends grâce. Père, merci. Père, merci. Tout le temps. Et il leur montre comment faire. Voilà pourquoi nous faisons la même chose. Et donc, dans cette affaire de cette priorité, hein, c'est ça la grande affaire. C'est quoi ce qui doit être fait de façon essentielle? Nous n'avons pas assez de temps pour faire toute la multitude des choses qui est à faire. Mais est-ce que faisant d'entité de choses qui ne sont pas forcément l'essentiel, eh bien alors nous ne faisons pas l'essentiel. Hein, c'est la grande problématique des priorités dans notre vie. Hein, et déjà, et là, de prendre les temps. Hein, alors, vous savez, là, il y a des priorités. Hein, et j'ai eu moi dans le cœur hein, très vite hein, une parole de l'Évangile hein, qui m'a transpercé. Jésus parlant à des équipes là de scribes et de pharisiens qu'il avait devant lui. Et puis il leur dit, mais c'est fantastique le boulot que vous faites pour aller essayer d'aller vous chercher un prosélyte. Vous faites des tas de choses pour ramener quelqu'un. Vous en faites des tas de choses. Quelle montagne de choses que vous faites. Vous faites le tour du monde pour ça. Mais vous ne pouvez pas en faire quelqu'un vous ne pouvez pas l'emmener plus loin que là où vous êtes. Et où êtes-vous? Où êtes-vous vous-même? Et cette parole, c'était très drôle. Dans mon cœur, elle s'est dite, eh bien, le lieu de ma priorité, de ce lieu d'une identité, d'un truc, c'était, et en lien avec les autres, le premier prochain qui était le mien, ça a été de découvrir que c'était Joël. Le premier lointain de ma vie, que j'ai quelque chose à faire si je veux vivre la plénitude de ma vie, qui est d'aimer et de faire ce que j'ai à faire, mon prochain, il est là. Et mon deuxième prochain, c'était mes enfants. L'unique nécessaire. Alors, hein, et j'explique ça dans le premier livre. Hein, c'était pas, il s'agissait pas de fermer la famille, hein, d'être là sur se centrer sur soi-même, mais il s'agissait de vérifier quel était l'unique nécessaire. Hein, le prochain, où est-il? Hein. Aimer le monde, sauver le monde, et puis. Alors il y avait ça, et puis ben et de cercle en cercle, hein, vous vous souvenez des priorités des cercles en cercle qui sont comme ça. Et il y a aussi un lieu qui est indispensable et que fantastique, c'est que si, l'unique nécessaire, il y a pas c'est cette Marie qui est assise aux pieds de Jésus et qui écoute la parole. Comment est-ce que cet événement-là, cette chose-là, est positionnée dans nos vies comme prioritaire? L'axe, hein, c'est l'axe central, hein, voilà, c'est ça que Jésus a. Et donc, je crois que une grande, grande affaire de ce comment on gère son temps, il est lié à ces espèces de prioritaires, là, ces choses-là. Hein. et où à l'intérieur, et alors ça l'unique nécessaire aussi, à l'intérieur des choses, pourquoi, comment ne pas oublier l'unique nécessaire? Alors moi je suis un pauvre, je suis un faible, vous savez, et donc j'ai comme beaucoup d'entre vous des petits et des faibles, j'ai un moyen pour ne pas oublier l'unique nécessaire. Et il est dans ma poche, sans cesse, hein. Toujours dedans et avec, que la manière dont je fais les choses, elle puisse être ne jamais t'oublier, ne jamais passer à côté, ne pas faire ce que je n'ai pas à faire. Parce que si je fais ce que je n'ai pas à faire, ça veut dire qu'il y a un essentiel qui n'est pas fait pour moi, pour, et j'appelais ça à un moment donné, je mets du désordre dans le système. Hein, je mets un désordre dans le système. Il y en a du désordre. Hein, et nous y participons. Le désordre n'est pas qu'ailleurs. Hein, nous sommes des êtres humains et nous participons. Et donc voilà, de cet unique nécessaire, prendre les moyens de ce que cet unique nécessaire soit dans nos cœurs. Merci. Partage. Je recherche un état de conscience qui puisse être le nôtre au quotidien, qui nous permette de ne plus subir notre vie, qui nous comble sans nous mettre en porte-à-faux avec personne et surtout pas avec nos semblables souffrants. Cette joie est telle que nous ne la quittons pas lorsque nous rejoignons l'autre souffrant. Voilà ce qu'elle cherche, voilà ce que je cherche. Hein, et elle nous dit, voilà, moi c'est ça que je cherche. Hein, c'est que c'est pas en m'écartant des gens qui ont des difficultés, c'est pas en... non, mais c'est d'avoir cette assise intérieure pour être capable, qui n'exclut pas les gens, mais qui est capable de rejoindre l'autre qui souffre également. Nous chercherons comment surmonter les circonstances difficiles et douloureuses de la vie en nous trouvant nous-mêmes toujours davantage. Et cela ne se peut que grâce au regard et à l'existence de l'autre. Aux antipodes du divertissement, nul ne se trouve soi-même tout seul. Le fils cadet de la parabole était perdu et il a été retrouvé. Alors l'autre et les autres, hein, alors ça aussi, l'autre et les autres, c'est tellement important dans notre vie. Hein. La joie que nous chercherons est un état de conscience, un état de désir, un état de plénitude, sans cause apparente. Et c'était aussi un état d'intégration. Intégration de tout ce qui constitue la vie terrestre. Tout ce qui constitue la vie terrestre, c'est-à-dire, comme on le dit si bien dans le rituel laïque du mariage, pour le meilleur et pour le pire. Hein? Eh bien, de vivre la vie en assumant le meilleur et le pire. La joie dans le meilleur, la joie dans le pire. La joie que nous chercherons est un état de conscience, un état de désir, un état de plénitude, sans cause apparente, et c'est aussi un état d'intégration, intégration de tout ce qui constitue cette vie terrestre, grâce à l'existence de l'autre en nous. Ne nous arrive-t-il pas d'exécuter une personne absente, donc rendue abstraite, tellement notre ressentiment est fort? Mais ne nous arrive-t-il pas d'être pris aux entrailles lorsque nous la voyons en chair et en os, exposée, dans le dénuement de son visage et non plus déformé par nos fantasmes de vengeance et d'accusation. Vous connaissez ça? Moi, je connais bien ça. Dès que les gens sont loin, mais les jugements, les toutes sortes d'affaires, et puis dès que les gens sont prêts, ils commencent à parler, on se parle, et puis qu'ils commencent à dire les problèmes dans lesquels ils sont, leur détresse. Et là, ça fond en moi les fantasmes des jugements et des accusations et ce déchirement des entrailles qui reconnaît l'autre dans sa détresse. Alors c'est sûr, plus l'autre va se reconnaître dans sa réalité souffrante, et plus nous serons prêts à ouvrir nos entrailles. Celui qui va fanfaronner, qui n'a pas de problème, qui est là, on a plus de mal à s'ouvrir. Et voilà aussi, c'est ça nos groupes de partage. Très souvent, on se dit, l'un ou l'autre me dit, mais je ne sais pas bien quoi faire, je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je pourrais dire. Eh bien, souvent, la meilleure manière de faire, c'est dis ton mal. Parce que alors ça, on est sûr que c'est vrai. On est sûr que c'est vrai. Et qu'on va te rejoindre parce que nous avons mal. Parce que quand tu vas nous parler avec ta tête, de tes raisonnements, de tout ça, on a 311 jours pour ça. Et de te toucher dans ton être profond, dans ce qui fait notre humanité de gloire et de souffrance, ça nous intéresse. Nos fantasmes de vengeance et d'accusation. L'existence humaine est essentiellement tragique. Il est possible de traverser la mort, traverser la vie, sans savoir qu'on est mort depuis longtemps. Ça, c'est ce que Jésus dit de laisser les morts enterrer les morts. On peut traverser la vie sans savoir qu'on est mort depuis longtemps. On fonctionne. On gère son temps, ses relations, on se conforme aux règles morales et religieuses, mais tout au fond de soi, quelque chose est mort. Toute une part de soi, la plus vitale, la plus sensible, n'est plus en relation avec l'autre, ou est dans une misère de vie coupée du Dieu vivant. Alors par grâce, par évidence, cette chose-là n'est jamais complètement le sentiment qu'on vit. On est des gens un peu morts. Mais le germe n'est jamais mort. Le germe intérieur n'est jamais mort. Alors, élargissons nos cœurs à ces différents témoins. Pierre Teilhard de Chardin. Sur l'Itabassais, certains me demandent d'en parler. Il y a déjà, je crois, pour aborder l'Itabassais, je ne sais pas si le document circule, nous avons donc tiré d'Internet la vie, une espèce de biographie, une petite biographie de l'Itabassais. Donc, n'hésitez pas à la lire, qu'il a en ce moment, qu'elle puisse circuler. Donc, si vous voulez connaître des choses sur l'Itabassais, il y a donc une biographie émouvante de cette une femme qui à la fois a beaucoup voyagé et puis souffert aussi. Elle a un de ses enfants qui s'est suicidé et puis qui a justement beaucoup travaillé sur cette problématique de la culpabilité, ce que ça signifiait est aujourd'hui vraiment une grande théologienne reconnue. Mais je vous laisserai lire cela. Alors, Teilhard de Chardin. Plus l'individu se reconnaît élément d'un univers en lequel il s'achève, plus il se sent lié par le dedans au devoir de se conformer aux lois de l'univers. Ah, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça, il faut pouvoir faire. Et c'est une des choses clés pour que, si on veut que les gens se conforme aux lois de l'univers, eh bien, il va falloir, notre grand travail, c'est qu'ils découvrent qu'ils sont un élément de cet univers et en lequel ils s'achèvent. C'est par l'univers qu'on peut pouvoir avancer. On va pouvoir devenir soi-même. Par exemple, pour justifier des sentiments philanthropiques d'amour de l'homme, hein, philanthropique, il faut absolument une certaine perspective de l'univers où les individus humains apparaissent liés les uns aux autres dans l'unité d'une commune destinée. Et ça aussi, c'est extrêmement important. De même, pour justifier le goût de la recherche et du progrès sous toutes ses formes, il faut à tout prix une théorie optimiste et progressiste de l'univers. S'il n'y a pas cette vision optimiste, hein, et d'un univers qui progresse, qui avance vers quelque chose où il va, eh bien, les tentatives vont être étonnantes. Exerçons-nous à satiété sur cette vérité fondamentale jusqu'à ce qu'elle nous devienne aussi familière que la perception du relief ou la lecture des mots. J'espère que déjà, dès que vous avez entendu ces quelques mots, vous avez dit, mais ça on connaît par cœur.
Ouais,
on l'a presque chaque année, ce texte. Pas tout à fait, mais donc, hein, ça c'est aussi, c'est pour faire travailler le souvenir. Après le travail sur la recherche de la vérité et de dire la vérité, une des choses clés de notre salut, c'est de nous souvenir des grâces reçues. C'est là qu'est notre identité. Hein? À un moment donné, j'ai reçu des éléments. Dieu ne va pas les répéter toutes les secondes. C'est à nous à tenir en elles. Et toutes les grâces que vous avez reçues, j'espère que vous reprenez de temps en temps ces moments clés de votre vie où il y a eu des paroles, des convictions profondes de votre identité. Elles sont aussi très proches de vos liens, des personnes qui vous sont chères et qui vous apportent beaucoup. Hein. Et là, le souvenir, donc voilà pourquoi Teilhard de Chardin, ce texte-là est pour moi fondamental. Vous pouvez en apprendre par cœur quelques-uns. Exerçons-nous à satiété sur cette vérité fondamentale jusqu'à ce qu'elle nous devienne aussi familière que la perception du relief ou la lecture des mots. Hein, aujourd'hui, c'est familier. Vous voyez tous ici, ou je ne sais pas bien quels sont vos problèmes de vue, mais en gros, nous voyons avec une perception du relief. Quand vous êtes en train de lire la toc-toc, il n'y a pas d'histoire. Les mots s'agencent et puis vous arrivez à trouver des mots. C'est une sorte d'automatisme. Alors voilà. Voilà, c'est ça qu'il nous dit. Alors, de la même manière, Dieu, dans ce qu'il a de plus vivant et de plus incarné, n'est pas loin de nous, hors de la sphère tangible. Mais il nous attend, à chaque instant, dans l'action, dans l'œuvre du moment. Ah, il nous attend. Tout peut être occasion d'être comme Marie dans l'unique nécessaire. Il ne s'agit pas d'être assis. Et la manière dont les disciples vont expliquer ça, et ça c'est la prédication qui va le faire, Marie qui écoute la parole n'est pas assise. Elle est assise près de Jésus. C'est-à-dire elle n'est pas assise, elle court. Hein? Parce que Jésus marche toujours, il dit j'ai même pas une pierre pour poser ma tête. Eh oui, mais c'est d'une façon de faire les choses et d'être. Hein? Et donc, et voilà, Teilhard nous dit, ce mystique-là qui vit ça, il nous dit, il nous partage comment il a réussi à tenir autant de persécutions, autant de difficultés, sans broncher, en assumant ses affaires et en faisant ce qu'il avait à faire. Hein? Alors, il nous attend à chaque instant dans l'action, dans l'œuvre du moment. Il est, en quelque manière, au bout de ma plume, au bout de mon pic, au bout de mon pinceau, de mon aiguille, de ma casserole, de ma cuillère, de mes outils, de mes... Voilà. De mon cœur, de ma pensée. C'est en poussant jusqu'au dernier fini naturel le trait, le coup, le point auquel je suis occupé, que je saisirai le but dernier auquel tend mon vouloir. Dans cette attention à la vie, à l'être, à ce que je suis, et petit à petit, ça va se réorienter vers mon unique nécessaire, quoi. Et larguer des choses, et puis aller, on va retrouver dans cette affaire-là la parabole de ce chameau qui ne peut pas entrer dans le chat de l'aiguille. Eh bien oui, parce qu'il y a des tas de trucs qui doivent partir. Et d'une certaine manière, c'est... Voilà, la porte est étroite, dit Jésus. Oui. Parce qu'il y a un unique nécessaire. C'est le petit trou pour passer, il est étroit, mais alors dehors, il y a le monde. Il reçoit au centuple, alors c'est ça, devant... Quand les disciples entendent cette parabole où il faut qu'ils lâchent et qu'ils se dépouillent, qu'ils aillent vers l'unique nécessaire, et Paul dit, mais nous, oh là 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 là, c'est dur déjà tout ça, et nous là, qu'est-ce que... Ben, il dit, vous recevez au centuple. Très légitimement, ce centuple